Chapitre 7. Cabinet de toilette d'une pompéienne. Conversation importante entre Julia et Nydia. L'élégante Julia était assise au milieu de ses esclaves. La chambre était petite, comme le cubiculum qui la joignait, mais plus large que les appartements réservés au sommeil, et ordinairement si étroit que ceux qui n'ont pas vu la chambre à coucher les pompéiens, même dans les plus riches maisons, ne peuvent se faire une idée de ces niches de pigeons dans lesquelles on se plaisait alors à passer la nuit. Mais en réalité, le lit n'était pas chez les anciens une chose domestique si grave, si importante, si sérieuse que parmi nous. Leur couche n'était qu'un étroit petit sofa, assez léger, pour être transporté aisément d'une place à une autre par son possesseur lui-même, et sans aucun doute on le changeait de chambre selon les caprices du maître ou les variations de la saison, car telle partie de la maison habitée pendant un mois était délaissée le mois suivant. Les Italiens de cette époque avaient d'ailleurs une singulière appréhension du grand jour. Leur chambre véritablement obscure, qu'on pourrait croire au premier abord le résultat d'une architecture négligente, était au contraire le résultat d'un art laborieux. Dans leur portique et dans leur jardin, ils jouissaient du soleil autant que cela leur plaisait, mais dans l'intérieur de leur maison, ils cherchaient plutôt l'ombre et la fraîcheur. L'appartement de Julia dans cette saison était retiré dans la partie la plus basse de la maison, immédiatement au-dessous des salles principales, et donnait sur le jardin avec lequel il était de plein pied. Une large porte vitrée n'admettait que les rayons du soleil levant. Cependant, l'œil de Julia était assez habitué à l'obscurité pour apercevoir exactement les couleurs qui lui saillaient le mieux et la nuance de rouge qui devait donner le plus d'éclat à ses yeux noirs et le plus de vivacité à ses joues. Sur la table devant laquelle elle était assise, se voyait un petit miroir circulaire en acier poli. Autour se trouvaient rangés, dans un ordre précis, les cosmétiques et les onguents, les parfums et les fards, les bijoux et les peignes, les rubans et les épingles d'or, qui étaient destinés à ajouter aux attraits naturels de la beauté l'assistance de l'art et les capricieuses coquetteries de la mode. À travers la demi-obscurité de la chambre brillaient les couleurs vives et variées des peintures de la muraille, avec tout l'éclat des fresques pompéiennes. Devant la table de toilette et sous les pieds de Julia, s'étendait un tapis sorti des métiers de l'Orient. À portée de la main, une autre table était chargée d'une aiguillère et d'un bassin. Il y avait aussi sur cette table une lampe éteinte du plus exquis travail, sur laquelle l'artiste avait représenté un cupidon reposant sous les branches de myrte, et un petit rouleau de papyrus contenant les plus douces élégies de Tibulle. Un rideau magnifiquement brodé de fleurs d'or servait de portière à l'entrée du cubiculum. Tel était le cabinet de toilette d'une beauté à la mode il y a 18 siècles. La belle Julia s'appuyait indolemment sur son siège, pendant que l'ornatrix, la coiffeuse, élevait lentement les unes au-dessus des autres une foule de petites boucles dont toutes n'appartenaient pas à Julia. Elle entremêlait les fausses et les vraies avec art et portait si haut son édifice qu'il semblait placer sa tête plutôt au centre qu'au sommet du corps humain. Sa tunique de couleur d'ambre foncé, qui convenait bien à ses noirs cheveux et à son teint un peu brun, descendait avec d'amples plis jusqu'à ses pieds, lesquels étaient renfermés dans des pantoufles attachées autour de sa jambe gracieuse à l'aide de cordons blancs. Une profusion de perles formait la broderie de ses pantoufles de pourpre, qu'on pourrait comparer aux babouches actuelles des Turcs, et une vieille esclave, versée depuis longtemps dans tous les secrets de la toilette, se tenait derrière la coiffeuse, ayant sous le bras la large et riche ceinture de sa maîtresse. Elle donnait de temps en temps à haut des instructions à la femme chargée de l'édifice de la coiffure, sans omettre de judicieuses flatteries pour Julia. Mettez cette épingle un peu plus sur la droite, là, plus bas. Sotte, mais vous ne voyez pas la superbe égalité de ses sourcils. Oh, on dirait que vous coiffez Corinna, dont le visage est de travers. Allez, maintenant, posez les fleurs. Quoi folle que vous êtes! Mais laissez-là ce triste giroflée, vous ne choisissez pas ici les couleurs en rapport avec les joues pâles de Cloris. Les plus brillantes fleurs peuvent seules convenir aux joues de la jeune Julia. Doucement, dit la maîtresse en frappant la terre de son petit pied avec une certaine violence, vous me tirez les cheveux, comme si vous arrachiez de mauvaises herbes. Triple bête, continua la maîtresse de cérémonie. Ne savez-vous pas combien votre maîtresse est délicate? Vous n'avez pas affaire au crin de la veuve Fulvia. Et maintenant le ruban. C'est cela. Belle Julia, regarde-toi dans ton miroir. As-tu jamais vu quelque chose de plus aimable et de plus charmant que toi? Lorsque, après d'innombrables commentaires, des difficultés et des retards, la tour capillaire eût été parachevée, la préparation qui suivit fut de donner aux yeux une douce expression de langueur, produite au moyen d'une poudre foncée qu'on appliquait sur les paupières et sur les sourcils. Une petite mouche taillée en forme de croissant, placée adroitement près des lèvres rosées, attirait l'attention sur les fossettes et sur les dents, dont l'art s'était déjà exercé à augmenter la blancheur naturelle. Une autre esclave, qui jusque-là s'était tenue à l'écart, s'approcha alors pour arranger les joyaux, les boucles d'oreilles de perles, deux à chaque oreille, les massifs bracelets d'or, la chaîne formée d'anneaux du même métal, à laquelle était suspendu un talisman en cristal. La gracieuse agrafe sur l'épaule gauche, qui renfermait un camé représentant Psyché, la ceinture de ruban pourpre richement brodée en fil d'or et attachée par des serpents entrelacés, enfin les différentes bagues pour chacun des doigts délicats effilés de la pompéienne. La toilette était achevée selon la dernière mode de Rome. La belle Julia se regarda avec un dernier coup d'œil de satisfaction personnelle et se renversant sur son siège, commanda languissamment à la plus jeune de ses esclaves de lui lire les vers amoureux de Tibulle. Cette lecture avait déjà commencé lorsqu'une esclave introduisit Nydia auprès de la maîtresse de la maison. « Salve, Julia !» dit la bouquetière en s'arrêtant à quelques pas de l'endroit où Julia était assise et en croisant ses bras sur sa poitrine. « J'ai obéi à vos ordres. »« Tu as bien fait, bouquetière, » répondit Julia. « Approche, assieds-toi. » Une des esclaves plaça un tabouret près de Julia, et Nydia s'y assit. Julia considéra quelques instants la Thessalienne d'un air embarrassé. Elle fit signe à ses esclaves de sortir et de fermer la porte. Lorsqu'elle fut seule avec Nydia, elle lui dit en la regardant et en oubliant que son interlocutrice ne pouvait observer sa physionomie, « Tu sers la Napolitaine, Ione. Oui, je suis chez elle en ce moment. Est-elle aussi belle qu'on le dit ? Je ne sais pas. » Comment pourrais-je juger de sa beauté? Ah oui, j'aurais dû me rappeler. Mais tu as des oreilles si tu n'as pas d'yeux. Tes compagnes, les autres esclaves, disent-elles qu'il y en est belle? Les esclaves dans leur intimité oublient de flatter même leur maîtresse. Oui, on me dit qu'elle est belle, très belle. Ah, est-elle grande? Oui. « Ah oui, c'est comme moi. A-t-elle des cheveux noirs ?»« Oui, je l'ai entendu dire. »« J'ai des cheveux noirs aussi. »« Et Glaucus, va-t-il la voir souvent? Tous les jours, dis-tu. Et la trouve-t-il belle? Ben, je le pense, puisqu'ils vont bientôt se marier. Se marier? S'écria Julia, dont on eût pu voir la pâleur soudaine, même à travers les fausses couleurs répandues sur ses joues. Elle se leva brusquement. Nydia ne pouvait s'apercevoir de l'émotion que ses paroles avaient causée. Julia se tut quelque temps. Mais son sein oppressé et ses yeux pleins de flammes auraient facilement appris à qui aurait eu d'autres yeux que ceux de Nydia, combien sa vanité était blessée. On prétend que tu étais sa lienne, dit-elle, rompant enfin le silence. On dit vrai? La Thessalie est la terre de la magie, des magiciennes, des talismans et des filtres amoureux, reprit Julia. On l'a toujours en effet regardé comme le pays des nécromanciens, anciens, répondit Nydia timidement. Connais-tu, toi, aveugle Thessalienne, quelque charme qui fasse aimer? Moi, répliqua la bouquetière en rougissant, comment en connaîtrais-je? Ah, assurément non, je n'en connais pas. Tant pis pour toi. Je t'aurais donné assez d'or pour acheter ta liberté, si tu avais été plus savante. Mais, demanda Nydia, qu'est-ce qui peut engager la riche Julia à faire cette question à une servante? N'a-t-elle pas richesse, jeunesse, beauté? Ne sont-ce pas là des filtres qui peuvent dispenser de recourir à la magie? Oui, pour tous, excepté pour une seule personne, reprit Julia d'un air hautain. Mais on dirait que ta cécité est contagieuse et... Oh, mais n'importe. Et cette personne? Dit Nydia avec empressement. Oh, ce n'est pas Glaucus, répliqua Julia avec la fausseté habituelle de son sexe. Glaucus, oh non! Nydia respira plus librement et Julia poursuivit après une courte pause. Mais en parlant de Glaucus et de cette Napolitaine, tu m'as remis en mémoire l'influence des filtres amoureux dont peut-être, que sais-je et que m'importe d'ailleurs, elle s'est servie pour se faire aimer de lui. Jeune aveugle, j'aime et Julia peut-elle vivre et en faire l'aveu? Voilà, je ne suis point aimé en retour. Oui, cela humilie, ou plutôt cela irrite mon orgueil. Je voudrais voir cet ingrat à mes pieds, non pas pour l'en relever, mais pour lui marquer mes mépris. Quand on m'a dit que tu étais Thessalienne, j'ai pensé que ton jeune esprit pouvait avoir été initié au mystère de ta contrée. Hélas, non, murmura Nydia. Plutôt Dieu que cela fût. Merci du moins pour ce bon souhait, dit Julia, sans se douter de ce qui se passait dans le cœur de la bouquetière. Mais dis-moi, tu entends les récits des esclaves, toujours portés vers ces croyances, toujours prêts à employer la magie dans leurs bas amours. N'as-tu jamais entendu parler de quelque magicien de l'Orient qui posséda dans cette cité l'art que tu ignores? Je ne te parle point de nécromanciens, de jongleurs de place publique, je te parle de quelques puissants magiciens de l'Inde ou de l'Égypte. De l'Égypte? Ah oui, dit Nydia en tressaillant, qui n'a pas, Pompéi, entendu parler d'Arbacès. Arbacès, c'est vrai, reprit Julia en ressaisissant ce souvenir. Oh, on dit que c'est un homme qui est bien au-dessus des vaines impostures de tant de prétendants à la science, qu'il est versé dans la connaissance des astres et les secrets de l'ancienne nuit. Pourquoi ne le serait-il pas dans les mystères de l'amour? S'il y a un magicien vivant dont l'art soit au-dessus de celui des autres, c'est bien ce terrible homme, répondit Nydia. Et elle toucha son talisman par précaution en prononçant ces paroles. Il est trop riche pour qu'on lui offre de l'argent, continua Julia. Mais ne puis-je lui faire une visite? Sa maison est une maison funeste pour les jeunes et belles femmes, répliqua Nidia. J'ai d'ailleurs entendu dire qu'il languissait dans... Une maison funeste, dit Julia, s'arrêtant à ses premières paroles. Pourquoi? Ben, ces nocturnes orgies sont impures et souillées, enfin, du moins la rumeur publique le dit. Par Cérès, par Pan et par Cybèle, tu ne fais que piquer ma curiosité au lieu d'exciter mes craintes, reprit l'audacieuse et indiscrète pompéienne. Je veux le voir et l'interroger sur sa science. Si l'amour est admis dans ses orgies, il en doit connaître les secrets. Nidia ne répondit pas. Je le visiterai aujourd'hui même, dit Julia, oui. Et pourquoi ne serait-ce pas sur l'heure? En plein jour et dans l'état où il est, vous avez sûrement moins à craindre, répondit Nidia, cédant elle-même au désir secret de savoir si le sombre Égyptien possédait des philtres qui puissent faire aimer, philtres dont la Thessalienne avait souvent entendu parler. Mais qui oserait insulter la riche fille de Diomède? S'écria Julia avec hauteur. J'irai. Pourrais-je venir savoir le résultat de la visite? Dit Nidia avec empressement. « Embrasse-moi, pour l'intérêt que tu prends à l'honneur de Julia, » répondit-elle. « Mais oui, assurément, tu pourras venir. Ce soir, nous soupons dehors. Reviens demain matin, à cette heure-ci, et tu connaîtras tout. Allez, arrête. Prends ce bracelet pour la bonne pensée que tu m'as inspirée. Souviens-toi, si tu sers Julia, qu'elle est reconnaissante et généreuse. » Oh, « je ne puis accepter ton présent, » dit Nidia en repoussant le bracelet. « Mais toute jeune que je suis, je puis sympathiser avec ceux qui aiment et qui aiment en vain. »« En est-il ainsi ?» reprit Julia. « Mais tu parles comme une femme libre, et tu seras libre aussi. Adieu !» Chapitre 8. Julia visite Arbacès, le résultat de cette entrevue. Arbacès était assis dans une chambre qui donnait sur une espèce de balcon ou de portique devant son jardin. Sa joue, extrêmement pâle, témoignait des souffrances qu'il avait éprouvées, mais sa constitution de fer avait triomphé des terribles effets de l'accident qui était venu détruire ses espérances au moment de la victoire. L'air embaumé qui effleurait un front ravivait la couleur, langueur de ses sens, et le sang circulait plus librement qu'il ne l'avait fait depuis plusieurs jours dans ses veines irritées. « Ainsi donc, disait-il, l'orage que m'annonçait le destin a éclaté et disparu. Le malheur prévu par ma science, qui menaçait jusqu'à ma vie, s'est éloigné. J'existe. » Il est venu comme les étoiles me l'avaient prédit, et maintenant une belle, une prospère, une brillante carrière qui devait s'éteindre devant moi, si je ne succombais pas, me sourit assurément. J'ai passé, j'ai dompté le dernier danger réservé à ma destinée. À présent, je n'ai plus qu'à parcourir les riants jardins de l'avenir, sans crainte, en toute sécurité. Le premier de tous mes plaisirs, même avant l'amour, ce sera la vengeance. Ce jeune grec qui a traversé ma passion, anéanti mes projets, humilié mon audace, au moment où mon fer allait se plonger dans son sang infâme, ne m'échappera pas une seconde fois. Mais par quel moyen me venger? Réfléchissons-y bien. Ô Athée, si tu es réellement une déesse, remplis-moi de tes plus saintes inspirations. » L'Égyptien tomba dans une profonde rêverie qui ne paraissait pas lui présenter une idée claire et satisfaisante. Il changeait continuellement de position, à mesure qu'il repoussait l'un après l'autre tous les plans qui s'offraient à son esprit. Il se frappa plusieurs fois la poitrine et gémit, plein du désir de la vengeance, mais avec le sentiment de son impuissance pour l'accomplir. Tandis qu'il demeurait ainsi absorbé, un jeune esclave entra timidement dans sa chambre. Une femme, évidemment d'un rang élevé, comme l'indiquaient sa toilette et le costume de l'esclave qui l'accompagnait, attendait en bas et demandait audience à Arbacès. Une femme ? Son cœur battit avec vitesse. Est-elle jeune ? Demanda-t-il. Sa figure est cachée par un voile, mais sa taille élancée, quoique arrondie, annonce la jeunesse. Qu'on la fasse entrer, dit l'Égyptien. Un instant, son cœur ému d'un vain espoir se flatta que ce pourrait être Ionée. Le premier regard jeté sur la personne qui entrait dans son appartement suffit pour le tirer de son erreur. Elle était, à la vérité, de la même grandeur qu'Ionée, et probablement du même âge, bien faite et pleine d'appât. Mais où était cette grâce ineffable et attrayante qui accompagnait chaque mouvement de l'incomparable napolitaine? Cette toilette chaste et décente, si simple dans son arrangement, cette démarche si digne et si réservée, la majesté de la femme et toute sa modestie. Pardonnez-moi si je me lève avec peine, dit Arbacès en regardant l'étrangère, je sors à peine d'une cruelle souffrance. On ne fait aucun effort au grand Égyptien, répondit Julia, cherchant à déguiser sous les dehors de la flatterie la crainte qu'elle avait éprouvée. Pardonnez à une femme malheureuse qui vient demander des consolations à votre sagesse. Approchez-vous, belle étrangère, reprit Arbacès, et parlez sans crainte et sans réserve. Julia s'assit auprès de l'Égyptien et jeta des regards de surprise autour d'une chambre dont le luxe exquis et coûteux surpassait même celui qui brillait dans la maison de son père. Elle remarqua aussi avec un certain effroi les inscriptions hiéroglyphiques tracées sur les murs, les figures des mystérieuses idoles qui paraissaient la contempler de tous les coins de l'appartement. Le trépied, à peu de distance, et par-dessus tout, elle observa l'air grave et imposant d'Arbacès. Une longue robe blanche couvrait à moitié, comme un voile, ses cheveux noirs, et tombait jusqu'à ses pieds. Sa présente pâleur rendait encore sa physionomie plus expressive. Son œil noir et pénétrant semblait percer l'abri du voile de Julia et explorer les secrets de l'âme vaine et si peu féminine de sa visiteuse. « Quel motif, dit-il d'une voix lente et grave, t'amène, ô jeune fille, dans la maison d'un fils de l'Orient ?»« Sa réputation, dit Julia. » « En quoi ? » reprit-il avec un étrange et léger sourire. « Mais peux-tu le demander, sage Arbacès ? Ta science n'est-elle pas le sujet de toutes les conversations de Pompéi ?»« Oh, j'ai acquis en effet quelques connaissances, » répondit Arbacès. « Mais comment ces sérieux et stériles secrets peuvent-ils être agréables à l'oreille de la beauté ?»« Hélas, » dit Julia, un peu encouragée par ce ton d'adulation auquel elle était habituée. La douleur ne s'adresse-t-elle pas à la sagesse pour être consolée? Et les personnes qui aiment sans espoir ne sont-elles pas les victimes choisies de la douleur? Ah ! S'écria Arbacès, un amour sans espoir ne saurait être le lot d'une si belle personne dont les attraits se révèlent à travers le voile même qui les couvre. « Relève, jeune fille, relève ce voile. Laisse-moi voir si ton visage est en harmonie avec la grâce de ton corps. » Julia, qui ne demandait pas mieux que de montrer ses charmes et qui pensait peut-être intéresser ainsi davantage l'Égyptien à son sort, leva son voile après une courte hésitation et révéla une beauté à laquelle le regard de l'Égyptien n'aurait pu reprocher qu'un peu trop d'art. « Ah, tu viens pour entretenir d'un amour malheureux, » dit-il. « Tourne ton visage vers celui que tu aimes. Je ne saurais te conseiller un meilleur charme que celui-là. » « Oh, trêve à ces flatteries, » dit Julia. « C'est un vrai charme que je viens demander à ta science, un charme qui fasse aimer. » « Belle étrangère, » répliqua Bassès avec un peu d'ironie, « de semblables talismans ne sont pas au nombre des secrets que mes longues veilles ont acquis. » Alors, illustra Bassès, « pardonne-moi et reçois mes adieux. Arrête !» s'écria Bassès, qui, malgré sa passion pour Ioné, ne demeurait pas insensible à la beauté de sa visiteuse et qui, dans un meilleur état que celui où il se trouvait, aurait peut-être essayé de consoler la noble Julia par d'autres moyens que ceux d'une science surnaturelle. « Arrête !» reprit-il. « Quoique j'ai laissé, je l'avoue, l'art de la magie, des filtres, des breuvages, à ceux qui en font métier, je ne suis pas cependant si indifférent à la beauté que je n'ai usé de cet art pour mon propre compte dans ma jeunesse. Je puis te donner des renseignements utiles, du moins si tu me parles avec franchise. Si j'en crois ta toilette, tu n'es pas encore marié. Non, dit Julia. Et peut-être, n'étant pas favorisé de la fortune, tu veux conquérir un riche époux. Oh non, je suis plus riche que celui qui me dédaigne. C'est étrange, très étrange. Tu aimes donc bien celui qui ne t'aime pas. Je ne sais si je l'aime, répondit Julia avec hauteur, mais je sais que je veux triompher d'une rivale. Je voudrais voir à mes pieds celui qui m'a refusé son hommage. Je voudrais voir celle qu'il m'a préférée, méprisée à son tour. Ambition naturelle et digne d'une femme, continua l'Égyptien, d'un ton trop grave pour être ironique. Un mot encore, jeune fille. Peux-tu me confier le nom de celui que tu aimes? Est-il possible que ce soit un Pompéien? Un Pompéien, s'il était aveugle à ta beauté, le serait-il à ta richesse? Il est d'Athènes, répondit Julia en baissant les yeux. Ah ! S'écria l'Égyptien impétueusement et une vive rougeur colora ses joues. Il n'y a qu'un Athénien, jeune et noble, à Pompéi. Parlerais-tu de Glaucus ? Oui, ne me trahis pas, c'est lui en effet. L'Égyptien s'affaissa sur son siège, le regard attaché sur le visage à demi détourné de la fille du marchand, en se demandant à lui-même si cette conférence qu'il avait jusque-là regardée comme indifférente, en s'amusant de la crédulité de sa visiteuse, ne pouvait pas profiter à sa vengeance. « Je vois que tu ne peux m'être d'aucun secours, » reprit Julia offensée de son silence. « Garde-moi du moins le secret. » Encore une fois, adieu. Jeune fille, répliqua l'Égyptien d'un ton empressé et sérieux, ta requête m'a vivement touché. Tes désirs seront satisfaits. Écoute-moi. Je ne me suis pas occupé moi-même de ces mystères subalternes, mais je connais une personne qui en fait sa profession. Au pied du Vésuve, à moins d'une lieue de la ville, habite une puissante magicienne. Elle accueillit, sur la rosée de la nouvelle lune, des plantes qui possèdent la vertu d'enchaîner l'amour par des nœuds éternels. Son art peut faire tomber celui que tu aimes à tes pieds. Va la trouver, prononce devant elle le nom d'Arbacès, elle redoute ce nom, et elle te communiquera ses filtres les plus certains. Hélas, dit Julia, je ne connais pas la route qui conduit à la demeure de cette magicienne dont tu parles. La route, quelque courte qu'elle soit, est longue à traverser pour une jeune fille qui quitte à l'insu de tout le monde la maison de son père. La campagne est semée de vignes sauvages et de cavernes dangereuses. Je n'ose me fier des étrangers pour me garder. La réputation des femmes de mon rang est aisément ternie. Et, quoiqu'il m'importe peu qu'on sache que j'aime Glaucus, je ne voudrais pas qu'on crût que j'ai pu obtenir son amour au moyen d'un philtre. 3 jours encore, dit l'Égyptien en se levant pour essayer ses forces et en marchant dans la chambre d'un pas faible et irrégulier. 3 jours de santé, je pourrai t'accompagner, tu m'attendras. Mais Glaucus va épouser cette Napolitaine que je hais. L'épouser? Oui, dans les commencements du mois prochain. Sitôt, en es-tu sûr? Je le tiens de la bouche de son esclave. Ah, oh, cela ne sera pas, dit l'Égyptien avec force. Ne crains rien, Glaucus sera à toi. Mais lorsque tu auras obtenu le philtre, comment t'y prendras-tu pour t'en servir? Mon père a invité Glaucus et je pense la Napolitaine aussi à un banquet pour après-demain. J'aurai l'occasion de verser le philtre dans sa coupe. Qu'il en soit ainsi, dit l'Égyptien, dont les yeux brillèrent d'une joie si sauvage que Julia éprouva quelque frayeur en le regardant. Demain soir, commande ta litière. As-tu quelqu'un à tes ordres? Oh, certainement, répondit Julia, toujours fière de son opulence. Commande ta litière. À 2 milles de la ville, il y a une maison de plaisir fréquentée par les plus riches Pompéiens, comme pour l'excellence de ses bains et la beauté de ses jardins. Tu peux en faire le prétexte de ta promenade. Tu m'y trouveras, fussé-je mourant, près de la statue de Silène, dans le petit bois qui borde le jardin. Je te conduirai moi-même chez la magicienne. Nous attendrons que l'étoile du soir ait fait rentrer les troupeaux des bergers, qu'un sombre crépuscule nous entoure et dérobe nos pas à tous les yeux. Arbacès, le magicien, l'Égyptien te jure par le destin qu'Ionée ne sera jamais l'épouse de Glaucus. Et que Glaucus sera le mien, ajouta Julia, achevant la sentence. Tu l'as dit, répliqua Arbacès. Et Julia, à demi effrayée du terrible engagement qu'elle prenait, mais poussée par la jalousie et par la haine contre sa rivale, résolut de le tenir. Demeuré seul, Arbacès laissa éclater ses sentiments. Brillantes étoiles qui ne mentaient jamais, vous commencez déjà l'exécution de vos promesses, le succès dans mes amours, la victoire sur mes ennemis pour le reste de ma douce existence. Au moment même où mon esprit ne me fournit plus aucun moyen de vengeance, vous m'avez envoyé, pour appui, cette belle insensée. Il se plongea dans ses profondes pensées. Oui, ajouta-t-il d'une voix plus calme, je ne lui aurais pas donné, moi, ce poison qui sera le philtre. Sa mort aurait pu me compromettre en remontant jusqu'à ma porte. Mais la magicienne, ah, c'est elle qui est l'agent le plus convenable pour mes desseins. Il appela un de ses esclaves, lui ordonna de suivre les pas de Julia, de s'informer du nom et de la condition de la jeune fille. Cela fait, il sortit sous le portique. Les nuages étaient sereins et clairs, mais familiarisé comme il était avec les moindres variations de l'atmosphère, il aperçut une masse de nuages au loin à l'horizon, que le vent commençait à agiter et qui annonçait un orage. C'est l'image de ma vengeance, dit-il. Le ciel est pur, mais le nuage s'approche. Chapitre 9. un orage dans les pays chauds, la caverne de la magicienne. Ce fut lorsque les chaleurs de midi commencèrent graduellement à se retirer de la terre que Glaucus et Ionée sortirent pour jouir de l'air pur et se rafraîchir. À cette époque, les Romains se servaient de diverses espèces de voitures. Celle qui était le plus en usage parmi les citoyens riches lorsqu'ils étaient seuls était le biga que nous avons déjà décrit dans la première partie de cet ouvrage. On l'appelait Carpentum, celle dont usaient ordinairement les matrones, voiture qui savait communément deux roues. Les anciens employaient aussi une sorte de litière, vaste chaise à porteurs, plus commodément disposée que celle des modernes, puisque celui qui l'occupait pouvait s'y coucher à son aise au lieu d'être secoué et ballotté perpendiculairement. Il y avait aussi une autre voiture dont on se servait pour voyager, ou pour faire des excursions dans la campagne, qui contenait facilement 3 ou 4 personnes avec une tenture qui pouvait se soulever à volonté. En un mot, quoique la forme en soit différente, elle correspondait à notre moderne britska. Les amants, accompagnés seulement d'une esclave d'Ionée, avaient pris une voiture de ce genre. À 10 000 de la cité, on trouvait les ruines d'un temple évidemment grec, et pour Glaucus et Ionée, tout ce qui rappelait la Grèce possédait un grand intérêt. Ils avaient résolu de visiter ces ruines, c'était là le but de leur promenade. La route les conduisit aisément à travers des bosquets de vignes et d'oliviers, jusqu'à ce qu'ils arrivassent sur les sommets les plus élevés du Vésuve. Le chemin alors devint difficile. Les mules marchaient lentement et avec peine. À chaque perspective qui s'ouvrait dans le bois, ils apercevaient des cavernes grises et terribles, découpées dans le roc brûlé, que Strabon a décrites, mais que les diverses révolutions du temps et les éruptions du volcan ont effacées de l'aspect actuel de la montagne. Le soleil était sur son déclin. De grandes et profondes ombres s'avançaient sur les collines. Par intervalles, ils entendaient encore les sons rustiques du berger, parmi les touffes de bouleaux et les chênes sauvages. Parfois, ils remarquaient la forme gracieuse de la capella aux poils soyeux, à la corne contournée, à l'œil brillant et gris, qui, sous les yeux de l'Ausonie, rappelle les églogues de Virgile, embroutant sur le flanc des montagnes. Des grappes de raisins que le sourire de l'été rendait déjà vermeilles étincelaient entre les festons du pampre qui pendaient d'un arbre à l'autre. Au-dessus, de légers nuages flottaient dans un ciel serein et glissaient d'une façon si lente à travers le firmament qu'ils semblaient à peine se mouvoir. À leur droite, de moment au moment, leur vue découvrait une mer sans vagues qu'animaient seulement quelques légères barques à sa surface. Les derniers rayons du soleil teignaient de douces et innombrables nuances cette délicieuse mer. « Quelle belle expression, dit Glaucus à mi-voix, que celle qui appelle la terre notre mer. Avec quelle tendresse égale et sainte elle répand ses bienfaits sur ses enfants. Même dans les lieux stériles auxquels la nature a refusé sa beauté, elle essaie encore de sourire. Regarde comme elle marie l'arbousier et la vigne sur le sol aride et brûlant de ce volcan. À une telle heure et en présence d'une telle scène, nous pourrions bien nous attendre à voir la riante figure d'un faune se montrer à travers ses festons. Ou bien surprendre les pas d'une nymphe de la montagne qui s'enfuit dans l'épaisseur du bois. Et la nymphe a disparu de la terre, belle Ionée, le jour même où les cieux t'ont créé, toi. Aucune langue ne s'est flattée mieux que celle d'un amant qui, dans l'exagération même de ses sentiments, ne croit dire encore que les choses les plus ordinaires. Étrange prodigalité qui s'épuise elle-même dans son effusion. Ils arrivèrent aux ruines. Ils les examinèrent avec cette tendresse qu'inspirent les vestiges sacrés des lieux habités par nos ancêtres. Ils y demeurèrent jusqu'à ce qu'Hespérus parut dans les montagnes l'orage rose du ciel. Et, se mettant en route au crépuscule pour revenir, ils gardèrent quelque temps le silence. Car dans l'ombre et sous les étoiles, leur mutuel amour oppressait davantage leur cœur. Ce fut à ce moment que l'orage prédit par l'Égyptien commença à gronder autour d'eux. D'abord un roulement de tonnerre sourd et éloigné les avertit de la prochaine lutte des éléments. Bientôt les nuages s'accumulèrent sur leur tête et la foudre y retentit avec force et à coups pressés. La promptitude avec laquelle se forment les nuages dans ce climat a quelque chose de surnaturel. Et la superstition des premiers âges a pu y voir l'effet d'une puissance divine sans qu'il y ait lieu de s'en étonner. Quelques larges gouttes de pluie tombèrent pesamment à travers les branches qui s'étendaient au-dessus du sentier. Puis tout à coup, un éclair rapide et effrayant passa avec ses lueurs fourchues devant leurs yeux et fut suivi d'une complète obscurité. « Va plus vite, bon Carucharius, » dit Glaucus au conducteur. « L'orage va fondre sur nous. » L'esclave pressa ses mules. Elles rasèrent le chemin inégal et pierreux. Les nuages s'épaissirent de plus en plus. Le tonnerre redoubla ses coups et la pluie tomba à grands flots. « N'as-tu pas peur ?» murmura tout bas Glaucus à Ioné, en saisissant ce prétexte pour s'approcher d'elle davantage. « Oh non, pas avec toi !» répondit-elle doucement. En cet instant, la voiture fragile et mal construite, comme beaucoup d'autres choses peu perfectionnées de ce temps en dépit de leur forme gracieuse, tomba avec violence dans une ornière en travers de laquelle se trouvait une poutre de bois. Le conducteur, jurant contre ses mules, ne fit que les stimuler plus vigoureusement, mais il en résulta qu'avec des roues, l'une des roues vint à se détacher et que la voiture versa. Glaucus précipitamment sorti du véhicule, porta secours à Ioné qui par bonheur ne s'était pas blessé. Ils parvinrent non sans difficulté à relever le carruca, mais ils reconnurent qu'il ne fallait pas songer même à y chercher un abri. Les ressorts qui servaient à attacher la tenture étaient brisés et la pluie se précipitait dans l'intérieur. Qu'y avait-il à faire dans cette fâcheuse conjoncture? Ils étaient encore à quelque distance de la ville, ni maison ni aide autour d'eux. « Il y a, » dit l'esclave, « un forgeron à 1 mille d'ici. Il pourrait remettre la roue à la voiture, mais par Jupiter, comme il pleut, ma maîtresse sera trempée avant que je sois revenu. »« Cours-y, » reprit Glaucus, « nous tâchons de nous abriter du mieux possible jusqu'à ton retour. » La route était ombragée d'arbres. Glaucus attira Ioné sous le plus épais. Il essaya de la protéger avec son manteau contre la pluie, mais la pluie tombait avec tant de violence que rien ne lui faisait obstacle. Pendant que Glaucus soutenait la belle Ioné et l'encourageait tout bas à prendre patience, la foudre éclata sur un des arbres qui se trouvait immédiatement devant eux et fendit en deux son large tronc. Ce redoutable accident leur fit connaître le péril qu'ils couraient sous leur propre abri, et Glaucus regarda autour de lui avec anxiété pour voir s'il ne découvrirait pas un lieu de refuge moins exposé au danger. Nous sommes maintenant, dit-il, à peu près à la hauteur de la moitié du Vésuve. Il doit y avoir quelques gavernes, quelques creux dans ces rochers couverts de vignes. « Retraite abandonnée par les nymphes. Oh, si nous pouvions y arriver !» En parlant ainsi, il s'éloigna un peu de l'arbre, et parcourant la montagne d'un regard attentif, il aperçut, à une distance peu considérable, une lumière rouge et tremblante. « Cette lumière, dit-il, va provenir du foyer de quelque berger ou de quelque vigneron. Elle va nous guider vers un endroit hospitalier. Voulez-vous rester ici? On n'est pas dans que... »« Non, mais non, je ne voudrais pas vous quitter lorsqu'il y a du danger. » J'irai volontiers avec vous, dit Yoné. Quoique cet espace soit découvert, il vaut encore mieux que l'abri perfide de ces arbres. Glaucus, moitié conduisant, moitié portant Yoné, s'avança, accompagné de la tremblante esclave, vers la lueur rougeâtre et d'un aspect étrange qui les guidait. Ils en perdaient quelquefois les rayons à travers les plans de vignes sauvages qui remplissaient leur chemin découvert et encombraient leurs pas. Cependant, la pluie augmentait toujours et les éclairs revêtaient leurs formes les plus effrayantes et les plus sinistres. Ils continuaient néanmoins à marcher, dans l'espoir que, si quelque demeure de berger ou à quelque caverne propice, ils arriveraient pourtant... un jour ou l'autre. Les vignes s'entortillaient de plus en plus devant eux. La lumière disparaissait complètement à leur vue. Mais un léger sentier, qu'ils suivaient avec fatigue et avec peine, continuait à les conduire dans sa direction à la seule lueur des éclairs que lançait l'orage. La pluie cessa soudain. Un terrain escarpé et rude, formé par la lave, s'étendait devant eux, rendu plus terrible encore dans son aspect par les éclairs de foudre qui l'illuminaient de temps à autre. Quelquefois, la flamme, en tombant sur des monceaux de scories gris de fer, couverts en partie d'anciennes mousses et d'arbres rabougris, s'arrêtait là, quelque temps hésitante, comme si elle eût cherché en vain quelque production de la terre plus digne de son courroux. D'autres fois, laissant toute cette partie dans l'obscurité, elle courait au-dessus de la mer en longs traits et semblait embraser les vagues. Si intense était le feu du ciel, qu'on pouvait reconnaître les contrées les plus éloignées de la baie depuis l'éternelle misaine avec son front orgueilleux, jusqu'à la belle Sorrente et aux montagnes géantes qui l'entouraient. Nos amants s'arrêtèrent pleins de doutes et de perplexité, lorsque soudain, dans un moment où l'obscurité les enveloppait, après les embrasements de la foudre, ils revirent tout près d'eux, mais plus haut, la mystérieuse lumière. Un nouvel éclair qui rougit le ciel et la terre leur fit distinguer même les environs. Aucune maison ne se trouvait à leur proximité. Mais à l'endroit où avait brillé la lumière, ils crurent apercevoir au pied d'une cabane une espèce de forme humaine. L'obscurité revint. La lumière, que les feux du ciel n'éclipsaient plus, reparut encore. Ils se décidèrent à monter de ce côté. Il leur fallut se faire un chemin au milieu des fragments de rochers recouverts çà et là de buissons sauvages. Cependant, ils approchaient de plus en plus, et à la fin, ils parvinrent à l'entrée d'une sorte de caverne qui semblait avoir été formée par de gros blocs de pierre tombés en travers les uns des autres. Ils jetèrent alors les yeux dans l'ombre de la caverne, et reculèrent involontairement avec une terreur superstitieuse et un long frisson. Un feu était allumé dans l'intérieur de la caverne, et sur ce feu, on voyait un petit chaudron. Une lampe grossière était placée sur une haute et mince colonne de fer. Sur le côté du mur, au bas duquel flambait le feu, pendait en rang nombreux, comme pour sécher, une quantité d'herbes et de graines. Un renard, couché devant l'âtre, fixait sur les étrangers les yeux rouges et étincelants, le poil hérissé, et faisant entendre un sourd murmure entre ses dents. Au centre de la caverne se dressait une statue de la terre, avec trois têtes d'un aspect bizarre et fantastique, composée des crânes d'un chien, d'un cheval et d'un sanglier. Un trépied peu élevé s'avançait en face de ce terrible symbole de la populaire ercate. Mais ce ne furent pas ces bizarres ornements de la caverne qui glacèrent le plus le sang de ceux qui y jetèrent les yeux. Ce fut la figure de l'hôtesse. Devant le feu, la lumière réfléchie sur ses traits, se tenait assise une femme très âgée. On ne rencontre peut-être dans aucun pays autant de vieilles femmes affreuses qu'en Italie. Dans aucun pays, la beauté, en se retirant, ne laisse une forme plus révoltante et plus hideuse. Mais la vieille femme qui se présentait aux amants n'offrait pas ce dernier degré de la laideur humaine. On reconnaissait au contraire en elle les restes de traits réguliers, nobles et aquilins. Elle avait un regard qui exerçait encore une sorte de fascination. On eût dit le regard d'un cadavre, regard froid et terne. Ses lèvres bleues et rentrées, ses cheveux d'un gris pâle, plats et sans lustre, sa peau livide, verte, inanimée, semblait avoir déjà pris les couleurs et les nuances de la tombe. « C'est une morte !» dit Glaucus. « Non, elle se meut. C'est un fantôme ou une larve !» murmura Ionné en se pressant contre la poitrine de l'Athénien. « Oh, fuyons, fuyons !» s'écria l'esclave. « C'est la magicienne du Vésuve !» « Qui êtes-vous ? » dit une voix creuse et pareille à celle d'une ombre. « Et que faites-vous ici ?» Cette voix lugubre et sépulcrale, en harmonie avec la figure de celle qui parlait, et qui paraissait plutôt la voix de quelque malheureuse créature errant sur les bords du Styx que celle d'un être mortel, aurait fait fuir Ionné au milieu des plus terribles rigueurs de l'orage. Mais Glaucus, quoiqu'il ne fût pas sans frayeur lui-même, l'entraîna dans la caverne. « Nous sommes des voyageurs de la cité voisine, égarés sur la montagne, dit-il. Nous avons été attirés par cette flamme et nous demandons un abri à votre foyer. » Pendant qu'il parlait, le renard se leva et s'approcha d'eux, en montrant dans toute leur rangée ses dents blanches, et en glavissant d'une façon menaçante. « Paix, esclave !» dit la sorcière. Et au son de sa voix, l'animal s'arrêta et se recoucha, couvrant son museau de sa queue, et tenant seulement ses yeux fixés d'un air plein de vigilance sur les étrangers qui étaient venus troubler son repos. « Approchez-vous du feu, si vous voulez !» dit la vieille à Glaucus et à ses compagnons. Je ne reçois volontiers ici aucune créature vivante, à l'exception du hibou, du renard, du crapaud et de la vipère. Je puis donc vous faire bon accueil. Mais asseyez-vous, malgré cela, auprès du feu, sans autre cérémonie. Le langage dans lequel s'exprima la vieille femme était un latin étrange et barbare, entremêlé de mots d'un plus rude et plus ancien dialecte. Elle ne se leva pas de son siège, mais elle les regarda attentivement, pendant que Glaucus débarrassait Ionné de son manteau et la faisait s'asseoir sur une poutre, le seul siège qui trouvât à sa portée. Il se mit ensuite à rallumer avec son haleine les restes du feu à moitié éteint. L'esclave, encouragé par la hardiesse de ses maîtres, se dépouilla elle-même de sa longue palla et se glissa timidement de l'autre côté du foyer. « Nous vous gênons peut-être, » dit Ioné d'une voix argentine pour se concilier la vieille. La sorcière ne répondit pas. Elle ressemblait à une femme réveillée un moment de la tombe, mais qui avait repris après son éternel sommeil. « Dites-moi, » s'écria-t-elle tout d'un coup après un long silence, « êtes-vous frère et sœur ?»« Non, » répondit Ioné en rougissant. « Êtes-vous marié ?»« Pas encore, » reprit Glaucus. « Ah, des amants !» Et la sorcière fit retentir la caverne d'un rire prolongé. Le cœur d'Ioné se glaça à cet étrange excès de gaieté. Glaucus se hâta de murmurer quelques paroles auxquelles il attribuait le pouvoir de conjurer un mauvais présage, et l'esclave, dans son coin, devint aussi pâle que la sorcière elle-même. « Pourquoi ris-tu ainsi, vieille femme ?» dit Glaucus avec rudesse, après qu'il eut achevé son invocation. « Ai-je ri ?» demanda la sorcière d'un air distrait. « Elle est en enfance, » reprit Glaucus. Et tout en parlant, il rencontra les yeux de la sorcière fixés sur les siens, avec un regard plein de malice et de vivacité. « Tu mens ?» dit-elle brusquement. « Bon, tu es une hôtesse bien peu aimable, » dit Glaucus. « Bon, cher Glaucus, dit Ioné, ne l'irrite pas. » « Je vais te dire pourquoi j'ai ri lorsque j'ai appris que vous n'étiez que des amants, » dit la vieille femme. « C'était parce qu'il y a du plaisir pour les personnes vieilles et flétries à voir de jeunes amants comme vous, et à savoir en même temps que l'on peut vous haïrer l'un l'autre. Vous haïrez !» Cette fois, ce fut le tour d'Ioné à prier pour détourner la funeste prophétie. « Mais que les dieux empêchent ce malheur, » dit-elle. « Pauvre vieille femme, tu connais peu le véritable amour. Sans quoi tu saurais qu'il ne change jamais. « N'ai-je pas été jeune, selon vous ?» reprit vivement la vieille. « Et ne suis-je pas maintenant vieille, hideuse, morte ? Telle est la forme, tel est le cœur. » En prononçant ces mots, elle retomba dans un profond silence, comme si la vie eût cessé en elle. « Y a-t-il longtemps que tu habites ici ?» dit Glaucus après une pause, car ce silence effrayant était comme un poids sur son cœur. « Oh oui, bien longtemps !»« C'est une lugubre demeure. »« Ah, tu peux le dire avec raison. L'enfer est sous nos pieds. » répondit la sorcière en montrant la terre de son doigt osseux. « Je veux bien te dire un secret. Les êtres ténébreux d'ici-bas vous menacent de leur colère, vous qui habitez là-haut, vous tous les jeunes, imprévoyants et beaux. Mais tu n'as que de mauvaises paroles peu convenables à l'hospitalité, reprit Glaucus, et à l'avenir j'affronterai leur rage plutôt que ta présence. » « Tu feras bien. Nul ne devrait entrer chez moi, excepté les malheureux. »« Et pourquoi les malheureux ?» demanda l'Athénien. « Je suis la magicienne de la montagne, » répliqua la sorcière avec un terrible sourire. « Mon métier est de donner de l'espérance à qui n'en a plus. J'ai des philtres pour les gens contrariés dans leurs amours. » Des promesses de trésors pour les avaricieux, des potions vengeresses pour les méchants. Et pour les heureux et les bons, je n'ai que ce que la vie a même des malédictions. Ne me trouble pas davantage. Après cela, la terrible hôtesse de la caverne reprit son attitude silencieuse sans que Glaucus pût l'engager dans une plus ample conversation. Aucune altération de ses traits rigides et immobiles n'indiquait même qu'elle l'entendit. Par bonheur, l'orage, aussi calme qu'il avait été violent, commençait à passer, la pluie tombait avec moins de force, et à mesure que les nuages se dissipaient, la lune se montrait dans le ciel en flammes et jetait une claire lumière dans cette demeure sinistre. Jamais peut-être elle n'avait éclairé un groupe plus digne d'être reproduit par l'art du peintre. La jeune, la toute belle Ionée, était assise près du foyer grossier. Son amant, qui avait déjà oublié la présence de la sorcière, était couché à ses pieds, les yeux tournés vers elle et lui murmurant de douces paroles. L'esclave, pâle et effrayé, se tenait à peu de distance, et la sorcière, au formidable aspect, les surveillait du regard. Cependant, ces deux êtres si beaux avaient repris leur sérénité, car tel est le pouvoir de l'amour. Ils paraissaient sans inquiétude, et on les aurait pris pour des êtres d'un ordre supérieur descendus dans cette mystérieuse et sombre caverne. Le renard les contemplait de son coin avec des yeux perçants et sauvages. Glaucus, en se retournant vers la sorcière, aperçut pour la première fois sur le siège qu'elle occupait le regard étincelant et la tête couronnée d'un large serpent. Il se peut que les vives couleurs du manteau de l'Athénien jetées sur les épaules d'Ionée eussent attiré la colère du reptile. Alors sa tête se dressa. Il sembla se préparer à s'élancer sur la Napolitaine. Glaucus s'empara sur le champ d'un tison du foyer, et comme si cette action augmentait la fureur du serpent, il sortit de sa retraite et se dressa sur sa queue jusqu'à la hauteur du grec. « Sorcière !» s'écria Glaucus. « Rappelle ce serpent à toi, ou tu vas le voir tomber mort. »« Il a été dépouillé de son venin, » dit la sorcière, réveillée par cette menace. Mais avant que ses paroles fussent échappées de ses lèvres, le serpent s'était élancé sur Glaucus. L'agile grec qui était sur ses gardes se jeta précipitamment de côté et frappa un coup si violent et avec tant d'adresse sur la tête du serpent que l'animal tomba sans force parmi les cendres brûlantes du foyer. La sorcière bondit et se plaça en face de Glaucus avec un visage qui aurait convenu à la plus horrible des furies, tant il y avait de colère et de rancune dans son expression, quoiqu'elle conservât, même dans son horreur et dans son redoutable aspect, les contours et les traces de beauté. Elle n'offrait rien, en effet, comme nous l'avons dit, de cette laideur ridicule et grotesque dans laquelle les imaginations du Nord ont cherché la source de la terreur. « Tu as, » dit-elle d'une voix lente et ferme, qui contrastait par son calme avec l'expression de son visage, « tu as trouvé un abri sous mon toit, tu t'es réchauffé à mon foyer, tu m'as rendu le mal pour le bien, tu as frappé, peut-être tué l'être qui m'aimait et qui m'appartenait bien plus, la créature consacrée entre toutes aux dieux et que les hommes regardent comme vénérable. » Sache quelle punition t'attend. Par la lune qui est la protectrice de la magicienne, par Orcus qui est le trésorier de la colère, je te maudis, tu es maudit. Puisse ton amour être flétri, ton nom être déshonoré. Puissent les dieux infernaux te poursuivre. Puisse ton cœur brûler à petit feu. Puisse ta dernière demeure te faire souvenir de la voix prophétique de la sorcière du Vésuve. Et toi, ajouta-t-elle en se retournant avec la même rage vers Ionée et en agitant sa main droite. Arrête, sorcière, s'écria Glaucus en l'interrompant avec impétuosité. Tu m'as maudit et je confie mon sort aux dieux. Je te brave et te méprise. Mais ne profère pas une parole contre cette jeune fille, ou la malédiction qui sortira de ta bouche sera ton dernier soupir. Prends garde. J'ai fini, reprit la sorcière avec un sauvage éclat de rire. Car la destinée de la femme que tu aimes est attachée à la tienne, et ta destinée est d'autant plus certaine que j'ai entendu ses lèvres prononcer ton nom. Et je sais par quelles paroles te dévouer aux dieux infernaux. Glaucus, tu es maudit. En parlant ainsi, la sorcière se détourna de l'Athénien et s'agenouillant à côté du reptile blessé qu'elle retira du foyer, elle ne releva plus le regard sur les assistants. « Oh, Glaucus !» s'écria Ionée terrifiée. « Qu'avez-vous fait? Sortons vite de ce lieu. » L'orage a cessé. « Bonne hôtesse, pardonne-lui. Rétracte tes malédictions. Il n'avait pas d'autre dessein que de se défendre. Accepte ce gage de paix pour revenir sur ce que tu as dit. » Et Ionée, en se baissant, déposa sa bourse sur les genoux de la sorcière. « Dehors, dehors !» dit-elle amèrement. « L'imprécation est lancée. Les parques seuls peuvent dénoncer et dénouer un pareil nœud. »« Viens, ma bien-aimée, » dit Glaucus avec impatience. « Penses-tu que les dieux du ciel ou des enfers écoutent le radotage d'une vieille folle? Allez, viens !» Les échos de la caverne retentirent longtemps encore des éclats de rire de la saga. Elle ne fit pas d'autre réponse. Les amants respirèrent plus librement lorsqu'ils furent en plein air, mais la scène dont ils venaient d'être témoins, les paroles et les éclats de rire de la sorcière, pesaient encore sur le cœur d'Ionée. Glaucus lui-même avait peine à se remettre de l'émotion qu'il avait éprouvée. L'orage avait passé, on n'entendait plus qu'un coup de tonnerre de temps à autre à distance, dans les nuages sombres ou bien un éclair égaré venait protester contre la lune victorieuse. Ils regagnèrent le chemin avec quelques difficultés et retrouvèrent la voiture suffisamment réparée pour qu'ils puissent reprendre leur route. Le Carucarius invoquait un grand cri Hercule pour lui demander ce que ses maîtres étaient devenus. Glaucus essaya vraiment de ranimer les esprits épuisés d'Ionée. Il ne réussit pas davantage à reprendre lui-même l'élasticité de sa gaieté naturelle. Ils parvinrent bientôt à la porte de la ville. Comme on la leur ouvrait, ils rencontrèrent une litière portée par des esclaves et qui barrait le chemin. « Il est trop tard pour sortir !» cria la sentinelle à la personne placée dans la litière. « Mais pas du tout !» répondit une voix que les amants n'entendirent pas sans effroi, car ils la reconnurent immédiatement. « Je suis attendu à la maison de campagne de Marcus Polybius. » Je reviendrai dans peu d'instants. Je suis Arbacès, l'Égyptien. » Les scrupules du gardien s'évanouirent et la litière passa à côté de la voiture qui ramenait les amants. Arbacès, à cette heure, est à peine rétabli, ce me semble. Où va-t-il et pour quel motif qu'il quitte la ville? Dit Glaucus. Hélas, répondit Ionée en fondant en larmes. Mon âme pressent de plus en plus quelques prochains malheurs. Préservez-nous, ô Dieu, ou du moins, ajouta-t-elle intérieurement, préservez Glaucus.